Ce 40e jour après Pâques, les chrétiens célèbrent la fête de l'Ascension. L'Ascension, c'est ce jour dont la Bible nous dit que Jésus, le ressuscité de Pâques, est monté au ciel. Ce récit de l'Ascension, avec le livre des Actes des apôtres qu'il inaugure, entend répondre à une angoisse certaine de bien des premiers chrétiens. Certes, le Christ a été ressuscité, mais depuis longtemps on ne le voit plus. Il a disparu. Et notre salut, notre paix, notre joie ont-elles disparu avec lui ? Eh bien, nous qui sommes rassemblés ce matin, traversés par cette question ou bien d'autres, nous réaffirmons que notre espérance est en Dieu, que chacun de nous reçoive de lui la grâce, la paix, la joie, dans son cœur, dans sa vie. Levons-nous, frères et sœurs, pour chanter la fidélité de Dieu avec le répon indiqué dans le livret liturgique qui figure au début de votre psautier français. Éternel, pour le monde si beau mais si fragile, pour la vie si belle et si souvent menacée, pour cet immense univers où s'épanouit ton royaume, nous te louons. Pour ce jour qui nous redit à nouveau la résurrection et ses conséquences, pour ton Église qui nous rassemble, nous te louons. Pour ton Évangile, pour ce qui nous tient lieu de baptême, pour ta volonté de te servir de nous, pour la promesse de ton éternité, nous te louons. Et parce que nous pouvons t'aimer, que cet amour nous rend capables d'aimer à notre tour sur cette terre, en paix, avec joie, nous te louons. Amen. Poursuivons notre louange par le chant du psaume 25, les strophes 1, 2 et 4 de ce psaume ascensionnel. Prenons place. Il y a effectivement dans cette fête de l'Ascension un caractère assez paradoxal, puisque l'Ascension, c'est le départ définitif de Jésus, et donc une forme de tristesse peut gagner les disciples. Et puis c'est quand même un bout d'évangile, une occasion de se réjouir. Et le fait que la joie ne soit peut-être pas évidente est l'occasion pour l'apôtre Paul d'écrire à la communauté des Philippiens pour leur réaffirmer cet impératif de la joie. Voici ce qu'il écrit. « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, c'est Paul qui le répète, « Réjouissez-vous. » Manifestez de la douceur envers tous. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes circonstances, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin. Demandez-le lui avec un cœur reconnaissant. Et la paix de Dieu, qui dépasse toute intelligence, gardera votre cœur et votre esprit en Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, toi dont la Bible raconte que tu as reçu le Christ à ta droite, c'est donc du haut des cieux que tu nous as choisis pour former ton corps sur la terre, pour être les instruments de ta grâce. Ainsi, pour soutenir d'un regard miséricordieux ceux qui se débattent dans la misère physique ou morale, tu n'as que nous. Pourtant, tu le sais, chaque jour, nous nous dérobons à ton appel. Et nous n'employons qu'à notre propre service les dons que tu nous as confiés. Pardonne-nous. Et par la puissance de ta grâce, fais de nos yeux, de nos bras, de nos lèvres, de nos jambes, de notre temps, de notre force, les instruments d'un monde nouveau. Oui, renouvelle-nous pour ton service. Amen. C'est dans l'Évangile selon Jean qu'il y a ce dialogue entre Jésus et Nicodème. Et Jésus dit à Nicodème, « Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit est en lui la vie éternelle. Dieu, en effet, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Pour affirmer notre foi, je vous propose de vous associer à ce passage de la lettre de Paul aux Philippiens. Paul qui écrit ceci: le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur. Devenu semblable aux hommes, reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et sous la terre, et que toute langue proclame « Jésus-Christ est Seigneur », à la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre, et d'éternité en éternité. Amen. C'est sans aucune originalité de ma part que je vais vous lire maintenant le premier chapitre du livre des Actes des Apôtres. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux aussi qu'avec plusieurs preuves, il se présenta vivant après avoir souffert et leur apparut pendant 40 jours en parlant de ce qui concerne le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père dont, leur dit-il, vous m'avez entendu parler. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés d'Esprit Saint. Eux donc, réunis, demandèrent « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume pour Israël ?» Il leur répondit « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'il le regardait et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'il s'en allait, voici que deux hommes en vêtements blancs se présentèrent à eux et dirent « Vous, Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière dont vous l'avez vu aller au ciel. » Alors, ils retournèrent à Jérusalem depuis le mont appelé des Oliviers qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Frères et sœurs, je vous propose d'ouvrir votre recueil Louanges et prières au cantique 412. C'est peut-être la prière que formulèrent autrefois les premiers chrétiens, ce désir de ne pas en finir avec ce Jésus, cette supplique qu'il ne s'en aille pas. Cantique 412, les strophes 1, 2 et 3. Dieu notre Père, une parole de Jésus habite aujourd'hui notre mémoire. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. La présence de ton Fils parmi nous n'est plus celle de la parole qui porte le message ou du geste qui guérit. Ses pas ne foule plus les chemins de cette terre. Et son regard ne croise plus celui des hommes pour les accueillir et les pardonner. Il est présent, mais par l'Esprit. Et c'est lui, l'Esprit, qui ouvre notre cœur à ton appel, qui relève notre espérance, nous fait naître à une vie nouvelle. Il est au point de surgissement de toutes les solidarités, de toutes les communions. Et c'est à cet esprit que nous nous confions, à cette ouverture, à cette capacité de nous mettre en relation les uns avec les autres, à rejoindre l'autre dans sa plus grande intimité, dans ses préoccupations les plus profondes. Béni sois-tu, Dieu notre Père, pour ta présence et ton amour auquel la Bible nous rend sensibles. Chers frères et sœurs, ce texte biblique, parce qu'il est symbolique, rassemble, symbolise plusieurs sens possibles en un récit, en un texte, qui, année après année, n'est pas épuisé par les interprétations des lecteurs que vous êtes ou des prédicateurs que nous sommes. C'est la raison pour laquelle j'ose encore cette année essayer de dire quelque chose sur ce texte. Et j'aimerais aborder ce récit dans son aspect de transition. Transition entre le ministère terrestre de Jésus et le ministère des apôtres. Transition aussi entre la partie dite des évangiles et le reste du Nouveau Testament. Je vous propose donc de lire ce récit de l'Ascension comme un récit de fin de rite de passage. Rite de passage d'une époque à une autre, d'un état à un autre, d'une situation à une autre. Un rite de passage tel que l'universitaire Arnold von Gennep en parle est composé de trois phases, trois périodes. La première partie d'un rite de passage, c'est la phase préliminaire qui est marquée par la séparation, par la coupure, le fait de s'arracher à quelque chose. Pour le cas de Jésus, cette première partie préliminaire intervient bien sûr au moment de sa mort et de son ensevelissement. C'est lorsque nous avons traversé tous ces récits de Vendredi Saint. Et la deuxième partie d'un rite de passage, la phase liminaire, c'est une période de marge, période de flou, une période où tout est possible en quelque sorte. Une période pendant laquelle nous pouvons passer à autre chose ou au contraire, rester prisonniers de notre état initial. C'est une phase de l'entre-deux. C'est cette phase pendant laquelle s'élabore ce qui rendra la suite possible. Et dans le cas des disciples, cette phase est la phase du deuil, ce qui explique que le début de notre culte ait été, d'une certaine manière, traversé par quelques éléments de deuil. Un deuil qui dure 40 jours, selon le rédacteur. Si nous nous référons à Arnold von Gennep, qui travaille sur la question des rites de passage, au sujet des deuils, il indique que cette période de deuil est l'occasion de laisser le corps se décomposer. Cela peut durer 8 jours, 15 jours, un mois, 40 jours, un an, écrit-il. Il s'agit d'une décomposition naturelle ou bien activée, par exemple par un grand feu. Mais il y a une période pendant laquelle le corps se décompose. Et ce travail de deuil consiste à accepter la décomposition du corps, qui bien sûr peut être symbolisée, car on n'a pas toujours le corps sous les yeux pour le voir se décomposer. Mais il y a une présence matérielle du corps qui se dégrade, qui se désagrège. Et cette période du deuil est cette période nécessaire à cela. L'évangéliste Luc avait abordé à sa manière cette période de deuil en évoquant, par exemple, le chemin de deux disciples vers Emmaüs, avec cette question du rapport physique à Jésus. Un ressuscité qui est à côté d'eux, mais qu'ils ne reconnaissent pas, et puis quand ils le reconnaissent, ils ne le voient plus. Autrement dit, le corps qui échappe. Il y a une déprise qui succède à la méprise de Pâques. La présence passe du corps charnel au corps spirituel. Et pour ce qui concerne Jésus, nous pouvons donc dire qu'il est mort, que son corps est désormais inerte, mais ses paroles restent et elles vont pouvoir continuer à produire leur effet bénéfique sur ceux qui étaient ses disciples. Et ce sera par exemple le cas du disciple Thomas. Cette fois, c'est dans l'Évangile selon Jean. Thomas voulait voir, il voulait toucher pour croire. Et puis en fait, ce que nous raconte l'Évangile, c'est qu'il se contentera d'entendre une parole qui s'adresse à lui personnellement, qui le désigne par son nom, Thomas. Et il croira, parce qu'il a entendu cette parole qui le touche et qui le bouleverse. 40 jours, c'est le temps nécessaire pour passer du statut de disciple à celui d'apôtre, dans cette perspective. 40 jours pour les disciples, peut-être 2 ans pour d'autres, peut-être beaucoup plus pour certains d'entre nous. Cette deuxième phase du rite de passage en contexte de mort, ce temps de deuil, c'est celui où la séparation d'avec le corps se réalise véritablement. C'est l'époque où nous nous détachons irrémédiablement d'une histoire charnelle commune. Le défunt n'est plus là. On a beau scruter les cieux, il n'y a plus rien à voir, plus rien à envisager du côté de la présence physique. C'est le temps de deuil, et ce temps est le moment de se raconter ce qu'on a vécu. C'est un travail d'introspection. C'est une exploration des souvenirs. Et il s'agit de trouver dans ces souvenirs la mémoire des lignes force, des lignes de sens, de ce qui a fait sens et qui pourrait bien faire sens encore pour nous aujourd'hui. C'est ce qui va nous permettre de nous projeter dans l'avenir, de faire en sorte qu'il y ait quelque chose qui vienne plutôt que rien. Quand il écrit que Jésus, quand il, le rédacteur des Actes des Apôtres, l'auteur de l'Évangile à Théophile, celui que nous appelons Luc, quand il écrit que Jésus, pendant 40 jours, était bien vivant parmi ses disciples, parlant du règne de Dieu, Luc, l'auteur des Actes, évoque cette période de deuil où la mémoire de ce qui a été vécu et partagé avec le défunt nous le rend bien présent, quoique mort, et nous permet de penser la vie enrichie de ce qu'il était, de ce qu'il a semé dans notre existence, de manière bien vivace, quoi qu'il soit mort. Pendant ces 40 jours, les disciples ont parlé, ils ont échangé, ils se sont racontés les bribes d'évangile qui avaient fait vibrer leur être si profondément qu'ils étaient désormais une véritable caisse de résonance de cette humanité manifestée par Jésus. Ils se recueillaient au sens où ils cueillaient tous ces souvenirs pour en faire un bouquet. Et ce faisant, ils ont parlé du règne de Dieu, oui. Ah oui, ça, ils en ont bien parlé. Ils se sont rappelés toutes ces paroles qui disaient le règne de Dieu. Ils se sont rendus compte que le règne s'était avancé, qu'il était là, déjà et pas tout à fait encore. Et ils ont parlé de ce que vivre veut dire vraiment. Cela a peut-être duré 40 jours, peut-être que cela a duré 40 ans, le temps qui sépare le ministère terrestre de Jésus de la rédaction finale de ses Actes des Apôtres. La question n'est pas là. La question n'est pas le décompte des jours, mais la manière dont cette période a été vécue, dont cette période a été habitée, ce qu'on y a fait, ce qu'on y a expérimenté pour passer ensuite à autre chose. Ce processus de deuil, ce travail de traversée du deuil. Nous apprenons ici que cette deuxième phase, qui est un deuil donc, est un temps propice à la relecture, à la reprise de l'histoire. Ce qui est souvent exprimé dans les textes mythologiques comme le trajet qui conduit le défunt vers sa dernière demeure, qu'il s'agisse de traverser un fleuve, de se rendre dans l'Hadès, dans le Sheol ou autre, le temps que le mort rejoigne sa dernière demeure est en fait une transcription du temps que nous mettons à rejoindre la maison des vivants. C'est une sorte de négatif. La traversée du deuil manifestée dans les mythes par le déplacement, le trajet vers le séjour des morts, est en fait en négatif notre trajet, nous les vivants, ceux qui restons, vers la maison des vivants. C'est le temps que nous mettons à franchir le seuil de notre demeure suivante, la vie sans celui qui est mort. S'ouvre alors la troisième phase du rite de passage. Phase préliminaire, la séparation. Phase liminaire, période de flou, de flottement, de reconstruction. Et puis, la troisième phase du rite de passage, la phase post-liminaire, pour reprendre le vocabulaire de Van Gennep, c'est le temps de l'agrégation. Ce moment où nous allons adhérer. Adhérer à la vie, adhérer à un projet, adhérer à une trajectoire. Nous allons faire corps avec quelque chose d'autre. Dans notre récit, ce sont deux hommes, ce ne sont pas des men in black, ce sont des men in white, tant pis pour les pasteurs, ce sont deux hommes qui vont mettre un terme à la sidération des disciples. Le petit élément déclencheur qui va les sortir de leur stupeur, qui va leur permettre le basculement pour adhérer à nouveau à cette dynamique de vie. C'est un peu comme si leur tapotait sur l'épaule en leur disant « Allez, il faut prendre le stylo de la vie et écrire désormais votre propre histoire, celle des Actes des Apôtres, la nôtre. » Et alors notre regard ne se fixe plus sur la mort. On ne s'abîme plus sur telle ou telle image macabre. On cesse de scruter les cieux dans l'espoir d'un retour. Et on s'oriente de nouveau vers un lieu de vie. On y prend pied, sans celui qui est mort, sans Jésus dans le cas de ses disciples. Et cette nouvelle période, cette nouvelle ère, porte un nom. C'est la sécularisation. C'est ce moment où nous reprenons pied dans le siècle, dans ce monde-ci. C'est ce moment où nous devenons entièrement responsables de l'histoire. Il n'y a personne pour gommer nos erreurs, personne pour nous faire remonter le temps, personne pour parler à notre place, personne pour prendre les décisions qui nous incombent. C'est la sortie de la pensée magique. Les choses n'arrivent pas uniquement parce qu'on voudrait qu'elles adviennent, mais parce qu'on travaille pour les faire advenir. C'est le temps de la responsabilisation. C'est le temps de la sécularisation. Nous sommes dans le siècle. Il n'y a plus de Jésus pour justifier ses disciples. Il n'y a plus de Jésus non plus pour sauver des mauvais pas. Il n'y a plus de Jésus pour rassurer, pour redonner du courage. Plus de Jésus au sens de l'individu qui avait partagé quelques mois de la vie des disciples. J'avais eu l'occasion l'an dernier de dire que les disciples étaient désormais libérés de Jésus. Je n'y reviens pas. sinon pour dire que cette libération est heureuse. C'est une sorte de bénédiction. Sans Jésus, les disciples sont désormais libres d'être eux-mêmes, d'accomplir leur destinée, d'aller leur route. Ils ont désormais du champ libre. Et les disciples découvrent ce qu'en sciences humaines, on pourrait nommer un plus à jouir. Ils ne sont plus castrés par Jésus. Et c'est l'un des bénéfices de l'ascension de Jésus. Jésus qui avait dit, selon l'évangéliste Jean, « Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Je vous laisse la place. Vous allez pouvoir vivre, vraiment. » Le départ de Jésus permet donc à chacun de se prendre en main et d'aller dans l'espace public, la police, au sens grec du terme. Ici, Jérusalem, pour y exercer sa responsabilité. L'ascension effectue une sécularisation. C'est ce passage de l'état d'enfant à celui d'adulte. Passage de l'état où l'on se repose sur les adultes dans bien des situations, le temps d'apprendre notre métier d'adulte, et nous passons à cet état où nous nous lançons seuls dans toutes les dimensions de la vie. La sécularisation dessine ce monde où l'homme est en pleine responsabilité. Impossible pour lui de se réfugier derrière une instance quelle qu'elle soit. C'est un monde où il n'y a pas, quelque part, un Dieu qui lui tiendrait lieu de conscience. La sécularisation est ce processus voulu par les textes bibliques qui aboutit à ce que l'homme soit en situation de répondre présent aux défis que la vie lui lance. Alors peut-on en dire un peu plus sur ces défis que nous lance la vie ? Parce que ça, les défis de la vie, c'est vraiment une belle formule. Mais ça vaut le coup de l'explorer un peu. Avec ce texte biblique, je crois qu'on peut au moins tracer une perspective. Et je le fais en m'appuyant sur cet élément étonnant de ce récit, la montée de Jésus vers le ciel. Était-ce nécessaire d'inscrire une montée de Jésus vers le ciel ? Après tout, le rédacteur aurait très bien pu dire que Jésus était mort, que ses disciples s'étaient posé beaucoup de questions, qu'ils avaient douté, et puis à force de travailler cette mémoire devenue vive, ils avaient retrouvé le goût de vivre et un nouvel élan dans leur vie, malgré l'absence de leur maître. Mais ce récit a son intérêt. Pas simplement de rattacher Jésus à la figure des patriarches Hénoch ou du prophète Élie, qui eux aussi ont connu leur ascension. Ce texte est intéressant parce que ce détail littéraire indique que l'histoire de Jésus est en quelque sorte validée par Dieu. Que Jésus soit élevé en direction des cieux, le lieu qui symbolise Dieu, et qu'il soit dérobé dans la nuée qui désigne là aussi le lieu où symboliquement Dieu se tient. Il suffit de relire les chapitres de l'Exode à ce sujet. Eh bien, c'est une manière de dire que les paroles de Jésus qui sont actuellement ruminées par les disciples ont leur place auprès de Dieu. Autrement dit, que ces paroles, les paroles qu'échangent les disciples à ce moment-là et qui vont devenir paroles d'évangile, portent l'humanité à hauteur de Dieu. Elles font honneur à l'homme divinisé, à l'homme véritablement humain. Les paroles de la communauté des disciples prennent alors une valeur universelle. Ce ne sont plus simplement les paroles de quelques disciples, ce sont des paroles utiles pour l'humanité tout entière. Les disciples découvrent qu'ils ne peuvent plus les garder jalousement pour eux. C'est jusqu'aux extrémités de la terre que ces paroles peuvent faire leur office de guérison ou de salut. Dire que le Jésus d'après Pâques s'en va vers Dieu, c'est dire que ce patrimoine de paroles que les disciples ont constitué touche à l'universel. C'est dire que l'essentiel est là, dans cet éclat de vie dont Jésus fut le témoin remarquable. Voilà ce qui sauve l'humanité de la médiocrité. Voilà ce qui sauve l'humanité de son extinction. Voilà ce qui la sort aussi bien de ses deuils que de son enfance. Ce patrimoine de gestes et de paroles qui constitueront bientôt l'Évangile dès lors qu'il sera mis en œuvre. La perspective tracée par l'Ascension, c'est que l'homme est destiné à être élevé à la hauteur de Dieu. Et pour nous, le défi de la vie est là. Vivre ces paroles et les partager, et en faire quelque chose au-delà de nos cercles familiers. Cette dynamique de l'Ascension est intéressante, elle est même utile, précieuse. C'est parce que nous adhérons à cette dynamique d'Ascension que nous soutenons les entreprises qui sortent quiconque de l'infantilisation. C'est parce que nous adhérons à une dynamique d'Ascension que nous sommes solidaires de toutes ces personnes qui rasent les murs, la trouille au ventre, ou qui n'ont que la honte pour unique vêtement. C'est parce que nous adhérons à cette dynamique d'ascension que nous refusons de stigmatiser, que nous refusons d'ajouter de la peine à la peine, que nous refusons les logiques de violence collective. C'est parce que nous adhérons à une dynamique d'ascension, que nous investissons notre énergie à défendre ce qui favorise la paix et l'harmonie, bien sûr, mais plus précisément, la dignité des individus, la liberté individuelle, le droit de s'associer librement, la possibilité d'aimer sans frontières, tout ce qui rehausse l'homme, tout ce qui lui permet de s'épanouir, tout ce qui lui permet de faire valoir ses talents, ses désirs, ses projets, dans le respect de celui qui se tient là, face à lui. C'est parce que nous adhérons à cette dynamique d'élévation que nous refusons le clivage qui consiste à se faire un nom, une réputation sur le dos de quelqu'un ou d'un groupe. Utiliser quelqu'un comme marchepied, c'est rabaisser cette personne. Et ça, c'est contraire à la dynamique d'élévation. Alors je dirais, pour notre temps, ici, dans la France de 2014, que le défi de vivre ces paroles et les partager, c'est un vrai défi, car il convient de détendre une atmosphère qui est proprement électrique. Et nous avons là un vrai défi qui nous attend. Faire en sorte que le monde ne se défasse pas trop, que ça ne finisse pas trop, pas trop mal en tout cas. Avoir en tête cette dynamique d'ascension, c'est prendre les décisions qui grandissent l'homme plutôt que d'agir en humiliant, en terrassant, en crucifiant. Ça va toujours bien quand on le dit ici, en référence au Vendredi Saint. Mais il y a des croix qui ne sont pas matérielles et pourtant tout aussi douloureuses. Et les anathèmes sont des façons d'humilier, de stigmatiser, de rabaisser la dignité d'un homme, qui ne sont pas vraiment en harmonie avec cette dynamique d'ascension. Rendre l'homme plus humain, le diviniser, c'est vraiment un défi de nos jours. Cela n'a plus rien d'évident. Mais l'expérience biblique montre que nous avons les moyens de le relever joyeusement. Alors, allons-y. Amen. Voilà une excellente préparation de notre organiste Jean-Dominique Pasquier pour chanter ce cantique 372 qui reprend justement l'épisode du chemin d'Emmaüs, qui reprend cette traversée du deuil. Et donc nous chanterons les strophes 1, 2 et 3 de ce cantique. Reste avec nous, Seigneur. Prenons place pour partager quelques informations. Vous dire qu'aujourd'hui, c'est un jour anniversaire. Bon, il y a certainement quelques personnes dont c'est l'anniversaire peut-être dans cette assemblée, mais c'est aussi l'anniversaire de notre Église, puisque c'est il y a un an que se tenait le premier synode de l'Église protestante unie de France. Et cette année, c'est donc le deuxième synode qui se tiendra à Avignon. Quand j'étais pasteur à Avignon, j'avais l'habitude de dire « Le pont est cassé, il n'y a plus de pape dans le palais, il n'y a que l'Église réformée qui marche bien. » Eh bien, c'est donc un bon lieu pour le synode de l'Église protestante unie. Dans notre agenda, demain, vendredi, une heure musicale de 12h30 à 13h30, ici même, donc venez profiter de l'orgue. Ensuite, dimanche prochain, le culte avec Regina Muller, qui sera suivi d'un repas paroissial. Dans la mesure du possible, inscrivez-vous à l'avance, par exemple auprès du comptoir librairie, pour indiquer votre présence, de façon à ce que nous puissions préparer les bonnes quantités. Tant que vous êtes au comptoir librairie, profitez-en pour acheter le hors-série du point tout à fait intéressant. Et puis, il y a un recueil de textes de Jacques Ellul, ou concernant Jacques Ellul, sur la technique, tout à fait intéressant et non disponible dans le commerce. Il y a encore quelques exemplaires ici, vous ne les trouverez pas ailleurs, Donc, il faut se ruer dessus. Voilà les textes du prophète Élul sur la technique. Si la question vous intéresse, si la question de l'asservissement à la technique vous intéresse, c'est intéressant. La semaine prochaine, quelques informations pour vous dire à quel point vous êtes gâtés. Vous êtes des enfants gâtés. Lundi, les adultes gâtés, parce que vous avez traversé, vous êtes passé d'un état à l'autre. Lundi 2 juin, on ne va pas vous donner de la viande hachée. Raphaël Picon, qui vient vous présenter la théologie noire du théologien James Cone. Il avait eu l'occasion de lui remettre le doctorat honoris causa de la faculté de théologie protestante de Paris. Et donc, lundi à 20h, Salmono, le professeur Raphaël Picon nous présente James Cone et la théologie noire qu'il a développée au moment du débat et de la lutte pour les droits civiques américains. Donc, c'est un contemporain des événements. Mercredi 4 juin, les États-Unis seront encore présents ici même dans le temple avec John Shelby Spong, évêque épiscopalien, connu pour être un fervent défenseur d'une approche libérale de la foi chrétienne. Pour le dire en toute simplicité, c'est quand même l'événement majeur du mois de juin dans le protestantisme parisien, si ce n'est francophone. Donc il sera ici. La conférence sera en anglais, mais ce sera traduit. Vous aurez le texte et vous pourrez poser les questions, car il y aura une traduction assurée. C'est ici même, mercredi, à 19h. Vendredi 6 juin, encore les Américains, c'est le 70e anniversaire du débarquement en Normandie. Mais il y aura aussi le soir un concert qui est sans rapport, où vous entendrez Rachmaninov, Shostakovich, Maton. C'est à 20h au Temple, vous êtes également les bienvenus, et c'est organisé notamment par l'Association des Amis du Temple et de l'Orgue de l'Oratoire du Louvre. Y a-t-il d'autres informations que j'aurais oubliées ? Oui, mais l'étude biblique de mardi, on l'annoncera dimanche. Une étude biblique mardi à 14h30, Salmono, sur la fin du livre d'Ézéchiel. Bien, c'est maintenant le moment de l'offrande. Pourquoi y a-t-il une offrande ? Eh bien, parce que sans nous, pas d'électricité, pas d'ouverture du temple, pas de pasteur, rien. La sécularisation, c'est ça. Nous sommes responsables de la vie que nous avons. Nous voulons une vie intéressante, riche, élevée, alors que notre offrande soit à la mesure de nos ambitions. Unissons-nous dans la prière. Éternel notre Dieu, toi qui prends un soin infini de chacun de nous, tu nous rends attentifs aux besoins des autres. Apprends-nous dans ta bonté à prendre les autres dans nos bras et fortifie notre témoignage commun de chrétiens en faveur de la justice, de la charité fraternelle, du pardon. Tu t'es attaché à susciter des personnes capables de briser toutes les formes de silence coupable. Donne le courage de soutenir tous ceux et celles qui, dans notre communauté rassemblée ici et au-delà, font entendre la voix en ton nom. Et donne la parole aux sans-voix. Qu'un réel amour de la vie soulage la détresse et la solitude de celles et ceux qui y sont confrontés. Tu as appelé tes disciples à être des messagers unis dans l'annonce de l'Évangile et des instruments de transformation de ce monde. Assiste-nous. Que la perspective d'un monde transformé, relevé, saisisse l'imagination de tous les croyants. Toi qui es ce qui nous conduit à la vie véritable, puissions-nous vivre continuellement de ta puissance vivifiante. Par ta présence parmi nous, donne de la force à ceux qui n'en ont pas. Et pousse-nous à donner la parole à ceux qui en sont privés. Toi qui es le lien de l'unité, donne aux dirigeants de nos communautés de foi, aux membres de notre synode, un zèle inébranlable dans leurs efforts pour l'unité. Et intensifie notre prière afin que nous soyons en mesure d'ouvrir de nouveaux chemins d'unité. Toi qui conduis à la vérité tout entière, toi qui redresses ce qui est faussé, inspire celles et ceux qui exercent des fonctions de gouvernement. Accorde-leur la volonté de veiller à ce que les besoins des démunis, des petits, des faibles sans voix aient priorité. Et garde-les de toute tentation afin que leur intégrité soit préservée de la corruption. Nous rassemblons toutes nos intentions de prière dans celles que Jésus a enseignées à ses disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, le Dieu de l'espérance nous comble de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit. Amen.